quand même se rappeler le contexte de l'époque. Donc, il y avait eu un changement de régime dans la rue, ce qu'on appelait le Maidan 2 en Ukraine, qui avait remplacé un président qui était non pas pro-russe, mais très ouvert à la coopération avec la Russie, par un président, dit-on, pro-occidental, qui voulait que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Ça veut dire que la Crimée, qui est la base de la marine russe depuis Catherine II, toute la mer Noire devenait une espèce de terrain pour l'OTAN, puisqu'il n'y aurait plus que la Russie qui ne serait pas dans l'OTAN sur les bords de la mer Noire.
Alors, on en parle un petit peu moins dans les médias qu'à l'époque, mais les combats continuent en fait dans les régions de l'Est de l'Ukraine, vers Lugansk et Donetsk, et puis aussi surtout en mer d'Azov.
Ce sont des choses différentes. Donc, vous avez eu la question de la Crimée qui était centrale. Et puis, vous avez eu en même temps, dans l'Ukraine de l'Est, donc proche de la frontière russe, un rejet du mouvement qui s'était installé à Kiev. C'est la rupture avec la Russie qui les dérangeait. Et le fait aussi qu'ils ont été très rapidement traités comme des citoyens de seconde zone qui n'étaient pas fiables. Et encore maintenant, ils sont décrits comme des traîtres ou des ennemis. Et donc la Russie, qui était sur une vague d'espèce de triomphalisme assez malsain, après le rattachement de la Crimée, s'est décidé à supporter la rébellion dans l'Est.
Il y a eu des accords de paix qui ont été signés dès 2014, d'ailleurs, en 2015 à nouveau à Minsk, et qui sont tous les deux restés lettres mortes.
Mais ça ne peut pas fonctionner parce que les accords de Minsk tels qu'ils ont été signés avaient comme but de figer la situation pour éviter que le conflit ne s'envenime. Mais ça reposait sur des concessions énormes pour le pouvoir ukrainien. Et donc on en est là, ça fait maintenant la deuxième fois quand même qu'il va y avoir des élections présidentielles auxquelles une partie de la population ne participera pas.
On a l'impression que l'Union européenne a un peu assisté à ce conflit qui continue sans réellement agir. Ou est-ce que c'est juste que les médias n'en parlent pas?
Non, je crois que l'Union européenne, effectivement, a tendance, au cours des dernières années, à regarder ce qui se passe sur le territoire européen sans avoir de grands ressorts diplomatiques et sans avoir de grandes possibilités de régler les questions. Et donc ça pose tout le problème, évidemment, que quand une place est vide, quelqu'un d'autre la prend et les États-Unis sont finalement les principaux acteurs pour essayer de régler les conflits sur le continent européen et ne le font pas toujours en tenant compte des intérêts des Européens, mais en tenant compte de leurs propres intérêts. C'est une des grandes faiblesses de la politique étrangère européenne, c'est qu'il faut travailler avec un consensus à 28, ce qui est pratiquement impossible à réussir, sauf si on s'aligne sur le plus petit commun dénominateur.
Et pardonnez la formule un petit peu grossière, mais est-ce que 5 ans après, on peut estimer que la Russie a gagné dans ce conflit, du fait même de l'attentisme de ses partenaires internationaux
Ça
qui lui...
dépend ce qu'on appelle le gagner. Si c'est réussir le coup de limiter la pénétration de l'OTAN dans la mer Noire, là c'est un succès. Au point de vue diplomatique et au point de vue politique, ça a quand même conduit à un certain isolement de la Russie qui est moins isolée que les Occidentaux ne le croient. Mais ça a aussi induit une politique proactive, comme on dit, de la part du Kremlin qui, sachant que la route est bouchée pour encore longtemps dans une coopération saine et active avec les Occidentaux, s'est tournée vers l'Est et a accru ses coopérations avec différents pays dans différentes régions du monde.
Un grand merci, Madame Bachkatov.
Très bien.
Merci
Merci.
beaucoup.
Au
Au revoir.
revoir.